Super, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de revenir parmi vous. Donc j'étais déjà là il y a quelques... ça fait déjà environ un an et demi, je crois. Ça remonte, je crois, octobre ou novembre 2024. J'étais de passage. Et donc j'avais visité. Donc c'était un plaisir de rencontrer notre frère Tchaout. Et nous rendons grâce à Dieu pour leur famille. Leur engagement en cuisine française. Et nous savons comment c'est pas simple, n'est-ce pas? C'est pas simple du tout parce que bon, c'est. Vous connaissez les soucis de fonctionnement ici, d'installation. Donc, continuons de prier pour eux pour que Dieu puisse faire grandir cette œuvre au Larivo qui a besoin d'une assemblée pareille, qui a besoin que l'évangile soit prêché, enseigné, surtout selon la Bible, n'est-ce pas? Surtout selon la Bible, et puis le nom de l'église le rappelle, église biblique. Alors donc, moi je commence à m'habituer maintenant parce que l'église là où nous sommes à Thionville, c'est une église biblique baptiste. Et je vais depuis maintenant quelques mois aider une église en Belgique, du côté de. Peut-être que tu connais Pasteur Taylor.
Non.
Larry Taylor, non?
Tu dis rien?
Ok. Donc je vais là-bas en Belgique aussi, donc c'est une ville qui s'appelle Alexandra, et deux aussi là-bas. Et donc l'église s'appelle aussi Église biblique baptiste. Donc, et donc j'arrive ici, mais je suis à l'église biblique baptiste. Donc ça veut dire quelque chose, n'est-ce pas? Ça veut dire que nous sommes centrés sur la parole de Dieu, sur la Bible, et nous croyons que tout ce que nous avons besoin de savoir de Dieu, d'accord, nous est donné par sa parole et évidemment par son Esprit Saint. Et donc nous sommes centrés sur cette parole et chaque fois que nous nous présentons devant vous, bien, il y a toujours la Bible, jamais trop loin. De manière à ce que ce que nous disons puisse être sorti par la parole de Dieu, par la Bible, d'accord? Donc voilà, c'est une joie d'être là ce matin avec vous pour ensemble partager la parole. Donc effectivement, je suis de passage et je suis arrivé vendredi soir et je vais devoir repartir demain soir encore. Et donc quand j'ai sollicité mon frère Louis qui moi je serai passer en visite, donc il m'a proposé de partager la parole avec vous ce matin. Donc, c'est un plaisir d'être là et de pouvoir le faire. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et donc, on va pouvoir ensemble voir. Donc, ce matin, vous avez déjà, en chantant et en racontant l'histoire, et de parler des photos tout à l'heure, une bonne partie de ce que, effectivement, je vais dire déjà concernant notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc, je ne vais pas reprendre toute l'histoire du bébé parce que nous savons, vous et moi, qu'il n'est plus un bébé. Où est-ce qu'il est maintenant, contre Jésus? Il est dans les cieux et qu'est-ce qu'il fait pour vous et pour moi? Il intercède pour nous, voilà.
Il nous protège,
voilà, il intercède pour nous auprès du Père. Il est surtout à la droite du Père, d'accord? Et donc la parole nous dit qu'il est allé aussi préparer une place pour vous et pour moi afin que là où il est, vous et moi, nous y soyons aussi le moment venu, n'est-ce pas? Et donc c'est l'espérance pour vous et pour moi, c'est une promesse. Et nous savons que Dieu tiendra sa promesse et ses promesses. Et bon nombre d'entre nous ont déjà traversé avant nous, ont déjà retrouvé cette place. Et donc, nous rendons grâce à Dieu pour les frères et sœurs qui, effectivement, sont déjà aux côtés de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et donc, ce matin, je vais essayer avec vous de voir un peu ce que Jésus-Christ, ce petit bébé qui est devenu depuis tard un homme, ce qu'il nous a apporté, ce qu'il nous a laissé comme héritage. Et donc, et c'est vrai que cette période de fête que vous et moi, nous avons depuis maintenant bien des années, où effectivement, à cette période, tout le temps, tout est illuminé, les villes sont éclairées, les maisons scintillent, n'est-ce pas? Et quand on va dans les magasins, encore, j'étais hier avec des amis, et on voit que voilà, il y a plein de champs, plein de comment vous appelez ça, des guirlandes, c'est ça? Ça brille de partout. Et donc, qui rappelle un peu la lumière de la ville, la lumière de la cité. D'accord? Et donc, ce matin, nous allons essayer de voir un petit peu la lumière qui vient du cœur, la lumière qui accède aussi au cœur. Donc le titre du message ce matin, c'est « De la lumière de la cité au salut du cœur ». De la lumière de la cité au salut du cœur. Et donc, nous allons voir discerner ce que ça veut dire, nous allons voir croire ce que ça veut dire, nous allons voir pardonner et de vivre dans la paix avec le Seigneur. Et donc, évidemment aussi avec nos frères et sœurs, nous allons balayer un petit peu tout ça parce que le temps n'est pas très, n'est pas énorme. On va essayer de, sur les 20 minutes qu'il nous reste, ou une petite demi-heure, partager tous ensemble et essayer de voir comment nous pouvons comprendre un petit peu, en tout cas vous encourager mutuellement, nous encourageons mutuellement dans cette parole du Seigneur. Donc j'aimerais vous lire pour vous ce petit passage que j'ai lu dans, au cours de la semaine, avec un petit brochure que je lisais. Il dit que dans la cité, en ces jours, tout s'illumine, les rues brillent, les vitrines attirent, les voix se pressent. Les traditions se répètent d'année en année. La fête est visible. La joie est annoncée, mais sous l'éclat des lumières, les cœurs ne sont pas toujours en paix. Les cœurs ne sont pas toujours en paix. Car l'homme peut vivre entouré de lumière tout en demeurant intérieurement dans l'ombre. Il peut célébrer une fête sans en saisir le sens. C'est pourquoi la parole de Dieu nous invite, en l'occurrence ce matin, nous invite à ne pas commencer par la fête, à comprendre ces choses-là, à ne pas essayer de comprendre ces choses-là par le fait d'être, de voir les guirlandes et toutes ces choses que nos yeux voient, mais de commencer par le cœur de l'homme, par le centre émotionnel de l'homme, par là où l'homme décide. Et donc, nous allons voir ça ensemble. Avant de parler de discernement, avant de parler de pardon, avant de parler de paix, nous allons d'abord parler du salut par grâce. L'une des choses, je dirais la chose essentielle que Jésus-Christ nous a apportée. Nous allons essayer de voir ce que nous avons reçu de Jésus-Christ depuis sa venue jusqu'à sa mort. Et ce qu'il nous a laissé comme héritage. Prions le Seigneur quelques instants. Oui, notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous voulons te rendre grâce et te dire, Père, combien nous te sommes infiniment, mais infiniment reconnaissants pour tes multiples grâces et bénédictions, Seigneur Dieu. Merci Jésus-Christ pour ta parole ce matin. Merci le fait que, Père, comme nous avons vu dans ta parole, tu t'es fait chair et tu as vécu, habité parmi nous. Et grâce à cela, Seigneur Dieu, grâce à tout ce que tu as accompli, nous pouvons être là ce matin pour que nous puissions ensemble méditer encore cette parole, nous rappeler encore de cette chose que tu nous as laissée, pour que notre foi soit plus forte, pour que nous soyons rassurés, pour que, Seigneur Dieu, nous puissions avoir une foi qui nous permet de traverser les épreuves en nous, en te tenant la main, Seigneur Dieu, et aller au plus avant, Seigneur. Merci pour cela, merci pour ce dimanche, merci pour ce temps que tu nous as donné, toutes les bénédictions et les grâces que nous avons déjà reçues ce matin. Et les bénédictions renouvelées encore, nous te rendons grâce pour cela. Et je prie, Père Saint, que ton bon esprit, Saint Seigneur Dieu, m'assiste dans ces moments, afin que ces quelques paroles que nous allons partager, Père Saint, puissent nous servir d'édification, nous servir, Seigneur Dieu, de force, Père Saint, pour que nous puissions toujours rester attachés à toi, Père. Merci pour tout, merci pour la famille. Tchaout ici, Seigneur Dieu en Guyane, pour leur engagement, pour vraiment combien ils se sont mis au service de ce peuple, la Rivo et sur Cayenne au plus large. Père Saint, nous prions pour eux que tu puisses protéger cette famille, Seigneur Dieu, et puis les aider dans ce beau ministère qui est le ministère de l'Évangile, Seigneur Dieu, afin que plus d'âmes viennent à la repentance et que vraiment ton royaume soit préparé lorsque, Seigneur Dieu, tu seras prêt et que ces gens, Père Saint, puissent continuer d'avoir ce beau témoignage, Père Saint, pour ta gloire. Je prie ainsi, Seigneur Dieu, je prie tout cela. Nous nous confions Jésus qui est notre bien-aimé Sauveur. Amen. Alors, donc, le salut. Le salut est délivré, c'est pour vous et pour moi, être délivré du péché et d'être réconcilié avec Dieu. Pour faire simple, et si quelqu'un vous pose la question, prenez la rue, et puis vous lui parlez du salut, il vous dira, mais qu'est-ce que le salut? Mais le salut, c'est être délivré du péché originel, n'est-ce pas? On l'a déjà entendu ce matin avec le pasteur. Et être réconcilié avec Dieu. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est ça qu'on va essayer de comprendre ce matin. La Bible révèle une vérité fondamentale. L'homme est séparé de Dieu par le péché. L'homme est séparé de Dieu par le péché. Autrement dit, l'homme ne peut pas, n'arrivait plus à avoir cette relation intime avec Dieu. Ne pouvait plus communiquer avec Dieu. Ne pouvait plus avoir de communion avec Dieu. Ne pouvait plus être accepté à la face de Dieu. Parce que l'homme était séparé de Dieu. Et c'est toute la définition que souvent on appelle la mort. Lorsqu'on dit quelqu'un, on est mort spirituel, donc c'est effectivement être séparé de Dieu. Dans Romains 3, chapitre 3, verset 23, il dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Car tous ont péché. Les enfants, les grands, les mamans, les papas, tous ont péché. Quelle que soit la couleur, quel que soit là d'où on vient, quel que soit le continent là d'où on est, d'accord, nous sommes tous considérés pécheurs devant Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et cette séparation conduit à ce que nous disions tout à l'heure, à la mort spirituelle. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, en ne plus être capable d'être en relation avec notre Créateur. Celui qui nous a créés ne pouvait plus avoir du temps avec nous parce que, à cause du péché. On sait que Paul nous rappelle dans Romains chapitre 23, verset 6, Romains chapitre 6, verset 23, il dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Gloire à Dieu pour la deuxième phrase. La phrase B, « Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est une promesse. Et c'est une bénédiction pour vous et pour moi de le savoir. Le salut, chers frères et sœurs, n'est ni une tradition, ni une amélioration morale. C'est plus que ça. Le salut est une nouvelle naissance spirituelle. Le salut est une nouvelle naissance spirituelle. Ainsi, on va voir dans Jean chapitre 3, verset 3, et à continuer, je ne sais pas si vous avez une Bible avec vous, lisons quelques versets de cette conversation avec, que Jésus-Christ va avoir avec cet homme, ce docteur de la loi qui s'appelle, comment il s'appelait, comme quiz pour vous, pour voir si vous vous rappelez, qui s'appelait Nicodème, voilà, et donc... disons juste quelques versets. Cet homme venait voir Jésus-Christ et il est venu un soir caché parce qu'il ne voulait pas que les autres le voient comme docteur de la loi. Il ne voulait pas être confondu des autres et donc il est venu voir Jésus-Christ en cachette par l'intermédiaire d'une autre personne de manière à lui poser ses questions. Questions pour vous et pour moi qui sommes en Christ, ce sont des questions très simples, mais pour lui c'était compliqué. Pour lui, il n'avait pas les réponses. Et donc, il pose cette question à Jésus-Christ, au verset 2. Et donc, il dit, je vais recommencer à partir du verset 1. Il dit, « Mais il y a un homme d'entre eux, les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit auprès de Jésus, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur de... un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors là, il était stupéfait de la réponse de Jésus-Christ, parce que c'était déjà un homme bien avancé en âge. Donc il se dit, mais oulala, pour moi c'est trop tard, c'est perdu. Il est inquiet là, à ce moment. Et Jésus lui dit cette vérité qui est là. Et il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Là, il se pose, non seulement il pose la question en général, mais il pose la question pour lui-même parce que ça le concerne. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître à nouveau? Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Dans votre Bible, si vous voyez, dans le verset 6, vous verrez qu'il y a le mot esprit deux fois, et une fois c'est marqué avec une lettre capitale, donc l'esprit de Dieu, et l'autre fois c'est l'esprit de l'homme. Ok? Donc, et Jésus-Christ va continuer sa discussion avec lui, et pour lui, finalement, lui expliquer ce qu'est tout simplement être né de nouveau. Comment peut-on être né de nouveau? Et on a vu dans notre texte, c'est une naissance spirituelle, une nouvelle naissance. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dieu a pris l'initiative du salut par amour pour vous et pour moi. Et c'est pour ça qu'il a accompli cet acte. Non seulement il a pris la forme d'un homme, d'un bébé, pour venir, pour grandir comme un homme, pour vous et, comme vous et moi, et avoir ressenti tout ce que nous ressentons. Il a bu, il a mangé, il a pleuré, n'est-ce pas? Il a pleuré, il a crié, il a été fatigué parfois, il a eu faim, d'accord? On l'a battu, on l'a craché sur lui, il a été à la croix, il a vécu comme vous et comme moi. Non seulement pour mieux nous connaître, non seulement pour mieux nous aimer, non seulement pour mieux partager nos sentiments, nos ressentis, nos douleurs, nos peines, nos joies, non seulement pour connaître tout cela, mais aussi pour nous sauver. Dieu a pris l'initiative du salut par amour. Il a accompli un acte rédempteur, salutaire, un acte divin en rachetant nos âmes au prix de la vie de son Fils unique, Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui?
Son Fils unique.
Afin que quiconque croit en lui ne connaisse pas maintenant la vie éternelle. Donc vous et moi, nous avons été rachetés. Nos âmes, vos âmes ont été rachetées à un prix extraordinairement cher. Il a fallu que le Fils de Dieu meure à la fois comme homme, 100% homme, et comme Dieu, 100% Dieu. Romains 5, 8 nous dit que « Mais Dieu prouve son amour envers nous, envers toi, envers moi, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, oui, pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il n'a pas attendu que nous venions, il n'y a pas eu un deal de fait sur la table à côté avec les gens pour dire que voilà, je vais mourir pour vous, mais à condition que, non. Il l'a fait, il a mis le salut disponible. Ça me fait penser aux mamans, d'accord, qu'est-ce qu'elles font très souvent à la maison? Bon, elles ne vont pas demander aux enfants s'il faut cuisiner. Les enfants, quand ils sortent de l'école, ils espèrent que la table sera garnie, que la nourriture sera prête, n'est-ce pas, messieurs, dames?
Oui,
on espère que voilà, le repas est prêt. D'ailleurs, on est dans le bus, on est sur le coup du scooter, voilà, on a déjà l'eau à la bouche, on espère que maman a déjà préparé le repas. Fatigué ou pas fatigué, mais les enfants espèrent cela, ils attendent cela des parents. Et c'est ainsi que Jésus-Christ a mis le salut disponible pour vous et pour moi. Oui, chers frères et sœurs, le salut s'obtient par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. C'est quelque chose de merveilleux pour vous et pour moi de le savoir. Dieu prouve son amour, car Dieu a tant aimé et car Dieu a donné. Vous voyez? Aimer, donner. C'est ça l'amour. Hein? Aimer, donner. Si tu me dis que tu m'aimes, il faut me le prouver. Il y en a qui le savent, ça, n'est-ce pas? Comment je sais que tu m'aimes? Comment je sais que tu m'aimes? Prouve-moi que tu m'aimes. Et Dieu l'a fait. Oui, il l'a fait. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous à la croix. À la croix, Jésus-Christ a porté nos péchés, notre condamnation. Il a tout payé. Il y a ce texte dans Ésaïe qui nous le rappelle. Et c'est ce qu'on sait sur toutes ces choses que nous avons eu de ce petit bébé qui est venu au monde et qui va nous apporter tout cela. Il était peut-être bébé, mais il y avait beaucoup de choses qui arrivaient que les hommes et les femmes qui le regardaient ignoraient encore de lui. Et dans Ésaïe, chapitre 53, le texte nous dit que il était blessé pour nos péchés. Allons lire ce texte ensemble. Je ne sais pas si je peux l'avoir rapidement. À partir du verset 2, il dit qu'il s'est élevé devant lui, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné les hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, celles de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il s'est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Cette phrase est belle. Dieu a fait retomber sur son Fils unique l'iniquité de nous tous, notre injustice, nos péchés. Oui. Maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, il n'a rien dit. Semblable à un agneau qu'on met dans la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a tout accepté. Ce petit bébé avait un grand projet. Je me demande combien de bébés naissent comme Jésus-Christ. Vous et moi, nous savons, il n'y en a pas. Parce qu'il est unique au monde. La Bible nous dit qu'il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes pour que nous soyons sauvés. Acte 4. C'est le seul nom que nous connaissons pour cela, le nom de Jésus-Christ. Il ne s'appelle pas Bouddha, il ne s'appelle pas Mohamed ou que sais-je encore. Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le salut s'obtient par la grâce et par la foi. Ephésiens 2, 8. Et c'est ça qui nous est demandé tout simplement pour y accéder. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un cadeau de Dieu, un don de Dieu. Là, si je prends 20 euros que je donne à ma soeur ici, elle va le prendre. Elle va me dire merci, elle va prendre ses 20 euros, n'est-ce pas? Parce que je lui ai fait un cadeau. C'est à elle. Ok? Et c'est ainsi que Dieu nous a fait un cadeau. C'est par grâce que vous êtes, que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, la Bible ajoute. Ce n'est point par les œuvres afin que personne, ni moi, ni le pasteur, ni les amis, ni la famille, afin que personne ne se glorifie. Dieu seul. Alors, oui, pour recevoir ce salut, chers frères et sœurs, il implique trois choses qu'on peut noter rapidement. Reconnaître son péché. Là, je n'ai pas le temps d'y aller, mais on pouvait noter ce 1 Jean 1, verset 8. Nous le rappelle, reconnaître son péché. Ensuite, se repentir, c'est-à-dire changer de direction, changer de voie. Supposons que vous êtes sur l'autoroute, vous décidez de quitter l'autoroute pour prendre une autre voie, eh bien, il vous sera difficile de revenir sur l'autoroute parce que vous avez changé de voie. Vous avez pris une autre direction. C'est pour ça que quand on dit qu'on est sauvé, qu'on accepte le Seigneur, on ne peut pas le faire deux fois, ça se fait une seule fois. Et donc, une fois qu'on a pris cette voie de repentance, on est en Christ, évidemment, il va falloir une vie de sanctification pour que nous apprenions à le connaître, à marcher avec lui, à nous laisser illuminer par sa parole, à nous aider à marcher pour que nos faiblesses puissent être confrontées à la vérité de Dieu. Mais, effectivement, lorsque nous faisons cet acte de repentance, nous devons changer de direction, c'est ce que ça veut dire. On ne le dit pas à la bouche et puis on ne fait rien. Ça doit se suivre d'un acte clair de changement de direction. Est-ce qu'on devient un parfait homme, une parfaite femme quand on fait ça? Non, du tout pas. Mais, par la grâce de Dieu, nous allons commencer à marcher avec le Seigneur, pas à pas, pour mieux le connaître. La troisième chose qu'il faut, croire en Jésus-Christ. Romains 10, verset 9, il nous le rappelle. On va lire ce passage. Romains, chapitre 8. C'est un verset, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Romains 10, versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche, je répète, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon que dit l'Écriture, avec un grand E. Dieu veut que tu parles. Dieu veut que tu avoues, que tu le dises. Pas seulement garder dans ton cœur, pas seulement le faire dans un petit milieu, il veut que tu le dises aux autres. Oui, je suis un enfant de Dieu, je suis sauvé par grâce. C'est par grâce que je suis sauvé, par le moyen de la foi. Il veut que nous puissions le dire, le raconter aux autres. D'ailleurs, quand nous sommes au supermarché ou dans des sorties ou quoi que ce soit et que nous rencontrons quelqu'un qui nous parle de Dieu ou de Jésus-Christ et que vous avez l'occasion de partager les paroles, à ce moment précis, vous n'avez pas de Bible avec vous. Et ça me fait penser un petit peu, j'ai toujours cette image en tête, vous connaissez les vaches, hein? N'est-ce pas?
Oui.
Les vaches, qu'est-ce qu'ils font de les vaches très souvent? Qu'est-ce que ça fait en général? Quand vous passez sur la route, vous les voyez, qu'est-ce qu'ils font en général? Ils ruminent. Qu'est-ce qu'il rumine? C'est dégueulasse, hein?
Ah!
Hein? C'est dégueulasse, hein? Qu'est-ce qu'ils font? Ils remontent ce qui vient de leur estomac, ils mangent, ça repart, ça remonte, ça repart, ça remonte. La parole de Dieu devrait être comme ça dans nos cœurs. Comprenez ce que je veux dire? Au moins notre témoignage, être en mesure de partager au moins notre témoignage à quelqu'un qu'on rencontre dans le supermarché ou quoi que ce soit. Parce qu'à ce moment, on n'a pas de Bible. Donc, on sortira de notre cœur qu'est-ce qui a été déjà enregistré. C'est pour ça que les versets, nous devons les apprendre, car Dieu a tant aimé le monde. On a des versets comme ça, c'est important de les connaître. Parce que quand on rencontre quelqu'un, on doit être en mesure de non seulement dire comment nous on accepte Jésus-Christ, mais ce qu'il a fait pour nous. N'est-ce pas? Comment il nous a pris de quelle situation nous étions et il nous a pris par la main, il nous a tiré vers le haut et il nous a sauvés. Donc reconnaître son péché, se repentir et croire en Jésus-Christ. Et la Bible dit que le salut à cet instant-là est immédiat. Et donc, Romains 5, 1, et donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et si une fois sauvé, le croyant reçoit une capacité nouvelle qui s'appelle le discernement spirituel, deuxièmement. Une capacité nouvelle qui s'appelle le discernement spirituel. 1 Corinthiens 2, 14, 15 nous dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme spirituel juge de tout. C'est ce que vous et moi nous devenons lorsque nous sommes en Christ. Lorsque nous venons à Dieu, nous devenons un homme non seulement naturel, vrai, mais aussi spirituel, parce que nous sommes nés de nouveau. C'est ce que Jésus-Christ a dit à Nicodème. Nous sommes maintenant aussi nés d'esprit. Notre esprit est en mesure maintenant de communiquer avec l'Esprit de Dieu. Et ainsi, nous pouvons être nourris de la parole de Dieu, être nourris de ce que Dieu nous donne. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire l'homme naturel, l'homme charnel, l'homme de chair et de sang ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme spirituel, juge de tout, effectivement a accès à ces choses-là maintenant. C'est pour ça que ce passage dans Jean chapitre 4, lorsque Jésus-Christ a discuté avec cette femme samaritaine, il lui dit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Il n'a pas dit encore, ou en âme, il dit en esprit et en vérité. Lorsque nous sommes nés de nouveau, notre esprit désormais peut être en relation avec, pas peut-être seulement, est en relation avec l'Esprit de Dieu. Quand j'étais petit à l'école dominicale, très souvent, je chantais ce petit cantique qui dit « Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme un aïe. » Vous connaissez ce petit cœur-là? Oui. Il y a aussi ce petit cœur qu'on chante souvent qui dit « Lis ta Bible, lis chaque jour, lis chaque jour, lis chaque jour. » Lis ta Bible, lis chaque jour et tu vas Alors, étant gamin, pour moi, j'espère grandir physiquement, n'est-ce pas? Et plus tard, je vais comprendre que ce n'est pas grandir physiquement, mais c'est grandir spirituellement, dans la connaissance de la parole de Dieu. Donc, Noël est vécu dans la cité, dans la ville, dans nos villes, ici en Guyane, comme une fête populaire, commerciale. C'est comme ça souvent que les gens le voient seulement. Beaucoup de gens le conçoivent comme ça, et même parfois, entre guillemets, des chrétiens. Le chrétien vit dans le monde, mais ne peut pas vivre selon le monde, chers frères et sœurs. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes en Christ, nous ne pouvons pas vivre selon le monde. Oui, nous sommes dans ce monde encore, parce que nous y sommes encore, parce que nous avons une mission à accomplir pour le Seigneur, c'est-à-dire partager la parole, dire notre témoignage aux autres, dire comment nous avons reçu Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Lorsque Jésus-Christ lui-même, dans Jean 17, il priait pour vous et pour moi, longtemps avant, verset 15, il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. La Bible ne nous donne aucune date précise de la naissance de Jésus-Christ, c'est vrai. Le 25 décembre est un choix historique qui a été fait par plusieurs organisations. Mais Dieu, ce matin, attire notre attention sur le sens spirituel de la venue de Jésus-Christ, non sur le calendrier. Tant mieux si on parle de la naissance de Jésus-Christ, tant mieux si on dit que le Sauveur est né, tant mieux si on dit qu'il est mort pour que nous soyons sauvés et que nous ayons la vie éternelle, quel que soit en décembre ou en juin ou en mars, tant qu'on le dise, je marche avec. Moi, si on veut fêter Jésus-Christ, sa naissance de janvier à janvier, moi je dis oui, un pasteur. Mm-hmm. Oui. Parce que c'est un événement, c'est la vérité. C'est la plus grande chose que le monde ait connue. Et qui va changer d'ailleurs la face du monde dans la naissance de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que notre calendrier est basé sur, à partir de la naissance de Jésus, notre civilisation, pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui. Dieu attire notre attention sur le sens spirituel de sa venue, non sur le calendrier. Alors, question pour toi ce matin, quel est le sens spirituel de cette fête? Il faut qu'on se pose la question, parce qu'on ne peut plus, vous et moi, agir comme les gens du monde. Jean 1, 14 nous dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Les lumières et les cadeaux peuvent effectivement masquer les besoins du cœur, frères et sœurs. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle met en garde. Elle nous met en garde contre les fois en apparence ou la foi en apparence. Les choses que nous pouvons recevoir chez de cadeaux, ces choses-là ne peuvent en aucun cas satisfaire la foi que nous avons besoin d'avoir en Dieu. Toutes ces lumières, toutes ces choses qui semblent beaux, merveilleux, magnifiques, ne sont que des choses naturelles, mais nous avons besoin de nous nourrir des choses spirituelles pour grandir. De Timothée 3,5, on dit que « ayant l'apparence de la piété, mais reniant très souvent ce qui en fait la force. » Nous ne pouvons pas être comme ça. Le croyant ne se conforme pas, ne doit pas se conformer. Il discerne toujours. Il est toujours en quête de vérité. Vous et moi, nous sommes toujours en quête de la vérité. Le monde peut parler, la radio peut parler, la télévision peut parler, mais nous devons être focus, nous, sur la vérité. Et la vérité, où est-ce que nous la donnons? Dans la parole de Dieu. Dans nos études bibliques. C'est pour ça qu'il faut être à l'église. Pas seulement les dimanches. Parce qu'on a étudié bibliques, eh bien, alors, je sais que parfois c'est très difficile, mais faites l'effort pour y être. Si vous n'y étiez pas, demandez les notes au pasteur. Il vous le donnera. Il vous dira, ben écoute, mercredi, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a enseigné ça. Comme ça, vous n'êtes pas lâché en route. Parce que vous avez besoin de grandir. C'est à partir de la parole que vous connaissez la vérité. C'est la connaissance de cette parole qui va vous permettre de savoir comment naviguer dans ce monde. Comment faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Comment juger des choses moraux, des choses morales qu'on voit dans ce monde. Savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Ça me fait penser à Salomon, ce jeune roi qui va devenir un roi plus tard. Et il arrive, et heureusement qu'il avait été enseigné évidemment avant. Et Dieu lui dit, mais dis-moi, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Et sa réponse à Dieu, c'était de lui dire, accorde-moi d'avoir du discernement et de la sagesse pour diriger ce peuple si nombreux qui est en face de lui. Il n'y a pas besoin de l'argent, de la richesse ou des choses comme ça, du pouvoir, mais parce que c'est ce qu'on a besoin. La sagesse de Dieu pour pouvoir être en mesure de discerner les choses du monde et faire la part des choses et faire des bons jugements. Ne vous conformez pas au siècle présent, dit la parole, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous et moi nous apprenions à faire des choses qui plaisent à Dieu. Qui fait plaisir à Dieu. Le chrétien, vous et moi, nous devons toujours apprendre à examiner. Quel ami? Jusqu'à quelle heure? Parce qu'il finit. Donc, on doit toujours rester effectivement à examiner. Et retenir ce que conduit, ce que dit Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 21 nous dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses. Vous, jeunes gens, jeunes femmes, vous allez faire face, j'en suis sûr que au collège ou au lycée, vous faites face souvent à des situations. Parfois, on vous propose de la cigarette, de la drogue, je ne sais pas, des choses comme ça. Nous devons, vous devez apprendre. Je vous le dis parce que j'ai quatre filles. D'accord? J'ai quatre filles et ma plus grande, elle a 21 ans. Ensuite, j'ai 17. Bon, heureusement qu'elles ne sont pas là. J'ai 17, j'ai 15 et j'ai 7 ans. Vous voyez? Donc, mais elles y sont. Papa, elles me disent, mais papa, tu sais, on me propose ça. Et Dieu merci qu'elles connaissent la vérité. Elles savent comment dire non. Parfois, la chose... On nous la montre sur un cadeau bien, bien joli, tout, ça fait plaisir, t'inquiète pas, c'est rien du tout, ça ne va rien te faire, et voilà, ça dure un petit moment, tu vas te sentir bien, ce genre de choses. Il faut dire non à ces choses-là parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, parce que Dieu a dit que notre corps est son temple. Notre corps est le temple de Dieu, son esprit habite en nous. Et parce que cela, son esprit habite en nous, nous devons vivre une vie qui glorifie le Seigneur pour ne pas attrister l'Esprit de Dieu en nous. C'est pour ça qu'il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui, il y a différents types d'intelligence, mais vous et moi, nous avons besoin d'apprendre de Dieu, de l'intelligence, de la parole de Dieu, pour que nous sachions confondre ce que le monde propose et ce que Dieu propose. Et que nous prenions les bonnes décisions, vous et moi. Examine, regarde. Parce qu'en plus du salut, il nous donne effectivement cette capacité à pouvoir juger les choses mauvaises et les choses bonnes. Il a fait de nous un être libre en même temps, capable de décider, capable de faire des choix. Troisièmement, Jésus-Christ. Je veux vous dire qu'il est la seule vraie lumière qui éclaire le cœur et garde la paix. Jésus-Christ est la seule vraie lumière. En ce moment, effectivement, on l'a vu au début, il y a beaucoup de lumière, mais il est la seule vraie lumière. Parce qu'à partir du moment qu'il illumine notre cœur, nos âmes sont illuminées, alors vous êtes une belle personne. Vous avez le sourire. Vous avez envie de partager, de vivre, de donner, d'aimer. Vous avez envie de réussir parce que Dieu a illuminé votre vie, votre cœur, vos pensées. Il vous a transformé, il a fait de vous une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses deviennent nouvelles dans votre vie. Et il est pour nous cette force. La lumière de la cité, de la ville attire les regards, mais Jésus-Christ seul éclaire le cœur. Jean 8, 12 nous dit que Jésus, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Cette lumière révèle la vérité du cœur. Vous savez, c'est souvent ce qui arrive à beaucoup de gens, peut-être à des membres de votre famille, qui ont du mal à accepter le Seigneur. Très souvent, le problème, c'est que les gens ont du mal à faire face à la vérité de leur cœur. Il y a des gens même qui ont peur de faire face à la vérité de ce que leur cœur veut leur révéler. Ils ne veulent pas entendre la parole. Il y a cette histoire dans la Bible avec Étienne, le jeune Étienne, le diacre, le premier diacre lorsque l'église a commencé. On voit qu'Étienne s'était mis debout, il a prêché la parole, il a rappelé au peuple leur histoire. Comment ils ont été les pères, les anciens ont désobéi à Dieu, ils n'ont pas été fidèles à Dieu. Et puis, Étienne a continué pendant un long moment, il leur a rappelé toute cette vérité que, d'ailleurs, ils savent déjà. Et comment ils sont désobéissants vis-à-vis de Dieu. Et le texte nous dit qu'à un moment donné, ils ont bouché leurs oreilles comme ça. Ils ont bouché leurs oreilles parce qu'ils ne voulaient plus entendre la vérité. Parce que la vérité, une fois qu'on l'a entendue, est capable de bouleverser notre cœur. Une fois que la vérité a été entendue, elle va bouleverser notre cœur, nos entendements, elle va changer peut-être nos habitudes, elle va aller à l'encontre de nos traditions parfois, de nos habitudes parfois religieuses. La vérité parfois va nous transpercer, elle va nous bousculer. Et ces gens ont fermé leurs oreilles, ils ont bouché leurs oreilles, ils ne voulaient plus entendre ce que Étienne disait. Et puis ils l'ont pris, ils l'ont lapidé. Parce que Étienne leur disait la vérité. Oui, cette lumière, c'est ce qu'elle fait en vous et pour moi. Ce petit bébé, c'est tout ça qu'il nous a apporté, chers amis. Oui. Étienne est resté debout. Il a pris la sentence qui lui était donnée, mais il a dit toute la vérité. Et le texte nous dit, plus loin, si vous lisez ce texte, dans Actes chapitre 7, il y avait un jeune homme à côté, vers qui on a posé des vêtements, et cet homme, ce jeune homme s'appelait Saul. C'est qui Saul? Saul, c'est celui qui va devenir plus tard Paul, l'apôtre Paul. D'accord ? Dieu va changer son nom, d'accord ? Il va s'appeler l'apôtre Paul. Et effectivement, de tout mon cœur, je crois qu'à partir de cet instant, lorsqu'il a vu ce qui s'est passé à Étienne, je pense que Dieu avait commencé à travailler le cœur de Saul pour que plus tard, il accepte Jésus-Christ. La vérité, frères et sœurs, transforme, elle change, elle impacte la vie des autres. Vous pouvez avoir des gens dans votre famille qui ne connaissent pas le Seigneur, que vous, vous êtes prêts à parler. J'ai souvent vu ça, même dans l'église où je suis à Thionville, où je sers. J'ai des familles où il n'y a que l'épouse qui connaît le Seigneur, que les enfants sont dans le monde, le mari ne veut pas savoir, et voilà. Et parfois c'est le mari qui connaît le Seigneur, que la femme ne veut pas, ou parfois c'est les enfants. C'est toujours très difficile parce que vous êtes tout le temps dans un rapport de force spirituelle dans la maison. Et ce n'est pas facile de forcer quelqu'un à venir. On ne peut pas non plus forcer aux gens à venir en Christ. Mais tout ce que je peux vous dire, la seule chose que vous pouvez faire, même si vous ne pouvez pas les forcer, c'est de garder votre témoignage. Continuez de servir le Seigneur. Continuez d'aimer le Seigneur. Continuez de vous donner à Christ. Continuez de les inviter. Continuez d'avoir un bon témoignage auprès de ces personnes. Montrez-leur comment Dieu a changé votre cœur, votre vie. Comment vous êtes passé d'une situation terrible où il vous a pris. Et dites-leur comment Dieu vous a changé, a transformé votre vie. C'est la seule réponse parfois à donner à des gens qui ne veulent pas venir à Christ, alors que vous vivez avec eux. On ne va pas les battre, on ne va pas les forcer. Ils doivent avoir la liberté. Jean 8, 32 nous dit que tu connaîtras la vérité t'affranchira. Mais c'est vrai qu'il faut que la personne accepte cette vérité. Et donc oui, continuez d'avoir un bon témoignage auprès d'eux, continuez d'avoir une vie qui plaît auprès de ces personnes afin que, oui, votre témoignage puisse un jour toucher leur cœur. J'ai lu cette histoire une fois sur Internet. Je vais m'arrêter là tout à l'heure. Ce couple aux États-Unis, c'était une femme qui aimait le Seigneur, qui servait le Seigneur avec fidélité, et elle allait souvent dans des réunions de prière. Et c'est vrai que son mari la violentait. Et un soir, il y avait, je crois, une grande conférence, une croisade, et elle y est allée participer, et elle est entrée plus tard que prévu. Il faisait froid, c'était un peu l'hiver. Et le mari était à la maison, à une certaine heure, il ferme la porte et puis il met la clé dessus pour pas qu'elle rentre. Elle arrive tard dans la nuit. Elle n'est pas repartie à l'hôtel, la dame. Elle n'est pas repartie chez des amis ou de la famille. Elle s'est laissée coucher devant la porte d'entrée de la maison, dans le froid. Elle s'est couverte avec ce qu'elle pouvait se couvrir. Elle a dormi devant la porte, dans le froid. Et le matin, son mari se lève avec son café bien chaud à la main, peignoir et tout, et il voit bien qu'elle n'est pas dans la maison. Alors, il avait l'habitude de prendre son journal devant, et il ouvre la porte, et il trouve sa femme couchée devant, dans le portillon et dans le foie. Alors, la porte a fait ce bruit, puis elle se réveille, et elle se met debout, elle rentre, elle lui dit bonjour, gentiment. Elle va dans la cuisine, et puis elle a continué de faire le petit déjeuner, elle a préparé son omelette, et tout. Et puis, elle l'a mis sur la table, elle lui a servi, et elle lui a dit, chérie, ton petit déjeuner est prêt. Et lui, il est là, il la regarde, il ne comprend pas, mais il est perdu, il dit, mais c'est pas possible. Après ce que je lui ai fait. Lui, il ne comprend pas, il est perdu, il est là, il n'a même pas été capable d'aller sur la table, il ne comprend pas. Et puis elle a pris le bras et puis ils se sont assis. Et puis il lui dit, mais qui es-tu? Comment peux-tu agir comme tu agis maintenant après ce que je t'ai fait? Et puis il a dit, Jésus est dans mon cœur. Et c'est ce Jésus-Christ que j'essaie depuis des années chez lui de passer bien. Et là, c'est comme ça qu'il est venu à Christ, ce monsieur. témoignage de sa femme. Et je sais que d'après l'histoire, je ne connais pas trop comment ça s'est passé par la suite, mais je sais qu'actuellement, ils font le tour des États-Unis, et ils prêchent dans les églises, et le monsieur est devenu un évangéliste plus tard. Vous voyez ? Elle a gagné l'âme de son mari, comme ça. Après des années, elle a tenu son témoignage jusqu'au bout, et Dieu, cette sagesse qu'elle a eue, Dieu lui a donné. Ce n'est peut-être pas quelque chose de naturel. C'est le changement spirituel que Dieu a accompli dans sa vie. Là où Christ entre, chers amis, c'est la paix. La paix s'installe, l'amour s'installe. C'est une lumière véritable, nous dit Jean chapitre 1, verset 9, qui en venant dans le monde éclaire tout homme, toute femme, tout enfant qui accepte et qui vient à Dieu. Mon quatrième point, je ne sais pas si j'aurai le temps de le prendre, mais juste pour survoler. Ce petit bébé nous a aussi amené le pardon. Comment pardonner? Moi, de tout mon cœur, je ne crois pas qu'on puisse séparer l'amour du pardon. Si on dit qu'on aime, on doit être aussi capable de pardonner. Je ne pense pas qu'on puisse séparer les deux. Il y a une soeur un jour qui m'a dit dans l'église où j'étais aux États-Unis, elle m'a dit, c'est une situation compliquée qu'elle a eu avec son conjoint, elle m'a dit, tu sais, je ne pourrai jamais lui pardonner. Moi, j'étais là, j'étais un peu plus jeune à l'époque, je ne m'attendais pas à une telle phrase, un dimanche matin. Elle m'a dit, je ne pourrai jamais lui pardonner ce qu'il m'a fait. Je la regarde, je ne savais pas quoi répondre à ce moment-là précis, puis quelques minutes après, je lui dis, mais tu m'as dit que tu aimes le Seigneur. Elle m'a dit, oui, j'aime le Seigneur. Je lui dis, comment tu peux aimer le Seigneur et ne pas être capable de pardonner? Elle m'a dit, mais c'est trop, il m'a trop fait souffrir, c'est trop dur. Je lui ai dit, mais est-ce que tu as demandé à Dieu la force? Et c'est vrai que c'est souvent très difficile de faire cette chose-là, de faire ce pas de pardon, de pardonner. Le pardon, dans le Nouveau Testament, et l'une des choses qu'on voit du pardon, il n'y a pas de condition. Dieu veut, Jésus-Christ veut que nous pardonnions, mais sans condition. C'est ce que Étienne a fait d'ailleurs. Étienne a demandé le pardon, alors qu'on le couvrait de pierre. Pendant qu'il recevait des coups de pierre, il demandait pardon pour ces gens, sans condition. Il n'a pas dit, bon oui, ça, c'est si, non, il n'y a pas eu de si. Conjonction. Il a simplement pardonné comme le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, en même temps, c'est la même chose ici. Il ne doit pas y avoir de condition pour le chrétien lorsque vous et moi, on doit pardonner. Je vais survoler rapidement pour vous dire ça. C'est un bel exemple que la Bible nous donne en ce sens. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Étienne nous a donné ce bel exemple. Étienne, accusé faussement de blasphème contre Moïse et contre le temple, Étienne a traîné devant le tribunal de Sanhédrin dans un discours prophétique et larabisageux, comme je vous disais tout à l'heure. Et ce pardon inconditionnel qu'il a donné à ces gens, non seulement à libérer Étienne, mais aussi à libérer ces gens. Lorsqu'on pardonne sans condition, on se libère soi-même et on libère aussi l'autre. Tu as fait en d'autres termes, tu fais de la place dans ton cœur pour lui. Ça me rappelle l'histoire de Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Parce que ses frères l'ont vendu et tout, et puis des années après, ils vont se retrouver plus tard. Et évidemment, il va comprendre que Dieu l'avait envoyé pour pouvoir sauver sa famille plus tard, c'est vrai. Mais, qu'est-ce qu'on a vu que Joseph a fait? Joseph a fait de la place sur sa table pour recevoir ses frères. Mais avant de faire de la place sur la table, il avait déjà fait de la place dans son cœur pour les recevoir. Lorsqu'on pardonne les autres, comme Dieu nous a pardonné, c'est d'ailleurs notre Père, on les libère, on leur fait de la place et on se libère soi-même. Ça, c'est le pardon inconditionnel que Dieu attend de nous. Il n'y a pas de condition là-dessus. Il n'y y a une toute petite différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament à ce niveau-là. Mais sous la grâce, il n'y a pas de condition. On doit pardonner. C'est ce que Jésus-Christ nous dit. Je vais m'arrêter ici parce que bon, je ne vais pas tout détailler. Mais en tout cas, je vous invite ce matin, frères et sœurs, à considérer cela. Ce petit bébé qui est venu, qui est mort plus tard au bois du calvaire, vous connaissez son histoire mieux que moi-même maintenant. Tout ce que vous et moi devons retenir, c'est qu'il a accompli l'impensable. Il a changé la face du monde pour que vous et moi nous ayons seulement la réconciliation, ce ministère de réconciliation, le salut, et nous pouvons maintenant vivre une vie de sainteté, une vie qui plaît à Dieu, une vie de sanctification mise à part pour le service pour le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux te rendre grâce pour encore ta fidélité, mais surtout Père, pour ta parole ce matin. Mais encore plus, Père Saint, pour ce Sauveur, Père Saint, qui est venu, ce Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Frère. J'ai en tête cette question que les disciples posent quand ils lui disent « Enseigne-nous à prier ». Et sa réponse était de leur dire « Notre Père ». Lorsque vous priez, vous dites « Notre Père ». Merci du fait que nous pouvons partager le même Père que notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, qui nous a sauvés, qui nous a sanctifiés, qui marche avec nous tous les jours. Et tu vois, personne, nos faiblesses encore. Lorsque nous tombons, lorsque, Seigneur Dieu, nous manquons de force, lorsque nous faisons marche arrière, parce que les difficultés de la vie, la souffrance, les choses, Seigneur Dieu, qui sont difficiles, viens dans ton secours, Seigneur Dieu. Pardonne-nous nos péchés, fais-nous grâce pour que nous puissions toujours rester à tes pieds, Seigneur Dieu. David, le psalmiste disait, tu m'as châtié, mais tu ne m'as pas livré à la mort. Même si faut, Seigneur Dieu, qu'on accepte d'être châtié par toi. Mais nous ne voulons pas nous éloigner, nous voulons rester à tes pieds, Seigneur Dieu, pour marcher avec toi fidèlement. Merci pour ta parole pour ce matin. Merci pour le salut par grâce. Et merci pour cette assemblée ici. Au l'arrivée, nous prions que tu bénisses cette assemblée, Seigneur Dieu. Et que tu fasses grandir cette assemblée en quantité et en qualité, Seigneur Dieu. Et que chaque âme ici présente ait à cœur d'amener une voisine, un frère, une sœur, à venir entendre la parole. Que eux aussi entendent la vie de la parole de Dieu. Que je te demande tout ceci, c'est le nom de Jésus qui s'en peut donner le Sauveur. Amen.
Merci beaucoup.